Justice Ginsburg, will you raise your right hand and repeat after me? I, Ruth Bader Ginsburg, do solemnly swear.
I, Ruth Bader Ginsburg, do solemnly swear.
That I will support and defend the Constitution of the United States.
That I will support and defend the Constitution of the United States.
Un personnage immense est mort à l'âge de 87 ans hier, Ruth Bader Ginsburg, qui siégeait comme juge à la Cour suprême des États-Unis depuis le 10 août 1993. Plus de 27 ans, donc, avait, après avoir traversé souvent des problèmes de santé majeurs, comme le cancer. Valérie Beaudoin va nous parler ce matin de la disparition de Ruth Bader Ginsburg. Valérie, bonjour.
Bonjour, Paul.
Personnage immense. Et son décès survient dans une période critique, à quelques semaines de l'élection présidentielle.
Oui, on sent qu'on est déjà dans une tempête politique et ça fait simplement quelques heures qu'elle est décédée. Alors avant de rentrer là-dedans, je voudrais vraiment parler de cette femme-là parce qu'elle a eu une carrière exceptionnelle et c'est pas pour rien que les États-Unis sont vraiment en deuil aujourd'hui. On l'a surnommée Notorious RBG. Alors vraiment, c'est un phénomène. C'était pas seulement une juge extrêmement respectée, mais c'était une icône féministe et progressiste aux États-Unis. Donc, tu l'as bien dit, elle est décédée des suites de complications de cancer, cette fois-ci du pancréas. Elle a eu plusieurs problèmes de santé dans les dernières années. On avait l'impression que c'était une femme qui n'était pas tuable, qui allait vivre éternellement parce qu'elle se cassait une côte, elle partait de la cour, elle recommençait à siéger, elle faisait de la chimiothérapie, elle recommençait à siéger par la suite. Vraiment une femme de conviction qui était pionnière dans le combat pour l'égalité des genres, pour les droits civils, pour les droits de la femme. Bref, vraiment pour le droit des minorités aux États-Unis. Elle a été avocate, elle était dans une classe, écoutez, de 552 hommes à Harvard, une des 9 femmes qui étaient là. Elle a finalement gradué de Columbia. Elle y a même enseigné. C'est une femme vraiment qui est toujours la qui a brisé beaucoup de plafonds de verre, on va dire ça comme ça. Première femme à pouvoir avoir un poste d'enseignante, par exemple, à Columbia. Elle a dirigé différents comités aussi pour les femmes un peu partout, nommée par Jimmy Carter à la Cour d'appel du district de Washington. Et elle était, jusqu'à hier, l'une des 4 juges progressistes assiégés à la Cour suprême.
Ça, c'est très important et on va y venir parce que, vous l'avez dit, il va y avoir des conséquences politiques énormes, des pressions, en tout cas politiques. Elle avait été nommée donc à la Cour suprême par le président Bill Clinton.
Oui, oui, tout à fait. Et c'était la deuxième femme, Paul, qui avait été nommée comme juge à la Cour suprême. La première étant Sandra Day O'Connor. Elle avait toujours dit que c'était un honneur d'être une femme à la Cour suprême. Et dans des entrevues dans les dernières années, on lui avait demandé quand est-ce qu'il y aura assez de femmes à la Cour suprême. Elle a dit qu'on sera 9. Alors, vraiment, là, c'est quelqu'un qui était extrêmement apprécié. D'ailleurs, je ne sais pas si les gens ont vu les images spontanées du rassemblement devant la Cour suprême à Washington. Je vous en parle et j'en ai des frissons. On chantait Amazing Grace devant la Cour suprême. C'était magnifique. Il va y avoir des rassemblements à prévoir aux États-Unis là, aujourd'hui encore.
Émouvant. Et on sait, Valérie, que son dernier souhait ne sera probablement pas exaucé. Parce que ce qu'elle a dit à sa petite fille, semble-t-il, avant de mourir, c'est que elle a dit « Je ne devrais pas être remplacée avant qu'un nouveau président ne soit élu. »
Et voilà la question, Thérèse, parce que dans quelques semaines, une élection, on va se le dire, Valérie, extrêmement importante. Et déjà, d'abord, premièrement, est-ce que le président américain Donald Trump a réagi à la mort de celle qui n'était pas vraiment une de ses alliées?
Non, mais je dois dire, rendons à César ce qu'on doit rendre à César, que Donald Trump, j'ai trouvé qu'il réagit très sobrement et correctement par rapport à d'autres décès qu'il y a eu, je vous dirais, d'ennemis un peu plus politiques comme John Lewis qui est mort aussi cette année.
John McCain.
Oui, exactement. C'est un très, très bon exemple, ça aussi. Parce que finalement, on lui a appris, c'est des journalistes qui lui ont appris après son rallye au Minnesota. Bon, il y a des mauvaises langues qui disent « il le savait, c'est sûrement arrangé ». Moi, je voyais quand même le choc dans ses yeux, mais c'est mon interprétation à moi. Je vous laisse entendre la déclaration de Donald Trump vraiment à chaud quand on lui annonce que Ruth Bader Ginsburg est décédée.
She just died? Wow. I didn't know that. I just, you're telling me now for the first time. She led an amazing life. What else can you say? She was an amazing woman. Whether you agreed or not, she was an amazing woman who led an amazing life. Actually, sad to hear that. I am sad to hear that. Thank you very much.
Alors ça, c'est sa réaction à froid, donc. À Cloquet, près de Duluth, au Minnesota, hier, pour un rallye. Donc, réaction quand même en disant que c'était une femme incroyable.
Oui, et qui était attristée de son décès, que peu importe les vues politiques, c'était quand même une femme qui avait eu un vécu et une vie extraordinaire. Donc, il y a aussi une déclaration officielle de la Maison-Blanche par la suite qui était aussi dans le même genre, en parlant de comment elle a marqué les États-Unis et la justice américaine, là, sans entrer dans un débat politique, du côté de Donald Trump, du moins. On va parler d'autre chose, là, mais lui, c'est pas encore entré là.
Bon, mais parlons de politique, parce que comme je vous disais, son décès survient à quelques semaines seulement d'élection. D'ailleurs, les Américains ont commencé déjà à voter par anticipation. Qu'est-ce que ça signifie pour la suite des choses? Parce que le Sénat américain est à majorité républicaine et déjà le leader du Sénat, Mitch McConnell, a annoncé ses couleurs.
Oui, moins de 3 heures après l'annonce du décès de la juge, Mitch McConnell a déjà dit et a déclaré être prêt pour organiser un vote si le président nomme un successeur à la juge. Pourquoi ça choque? Si vous vous rappelez, en 2016, il y a eu la mort d'un autre juge, Antonin Scalia. Il est mort 11 mois, lui, avant la fin du mandat de Barack Obama. Et on a interdit à Barack Obama de présenter vraiment, d'avoir la confirmation du juge qu'il souhaitait nommer, Merrick Garland. Parce qu'on disait, ben écoutez, c'est la majorité républicaine au Sénat, on est tout près d'une élection, laissons les électeurs décider qui sera le prochain juge. Et là, écoutez, on ne peut pas dire que ce n'est pas de l'hypocrisie. Je vais sortir un peu de ce que je dis normalement, parce que on dit une chose en 2016 pour les démocrates et là il est encore à la majorité des républicains et là il dit une chose et son contraire. On est à 45 jours de l'élection présidentielle et le mandat se termine le 20 janvier. Donc si on vote avant, on est vers la fin d'une élection, c'est déjà assez dramatique de faire ça aussi rapidement. Est-ce que ça va passer? Ça, c'est une question. Et par la suite, par exemple, si les sénateurs perdent leur majorité au Sénat à l'élection en novembre, et que pendant qu'ils ont encore cette majorité-là avant le nouveau congrès au début janvier, ils décident de passer le vote, imaginez comment ça semblerait pas légitime de vraiment passer un nouveau juge.
Comme si on prévoyait une défaite, enfin devenir minoritaire au Sénat, dépêchons-nous de placer notre candidat parmi les 9 juges de la Cour suprême.
Oui, c'est aller vraiment à l'encontre peut-être du souhait de la population. Si la population décide de leur enlever la majorité, décide de reconduire aussi le mandat de Donald Trump, ça c'est un autre contexte. Alors pourquoi pas attendre? On l'a déjà vu, hein, des périodes assez longues de 8 juges seulement.
Mais Valérie, la dernière nomination, elle a été tellement controversée. Rappelez-vous toute l'aventure de Brett Kavanaugh, qui était le choix républicain, en fait le choix du président américain. Et regardez comment ça a été complexe. Est-ce qu'on pourrait précipiter le nom du remplaçant ou de la remplaçante de la juge Ginsburg en quelques semaines seulement? Ce serait courir à la catastrophe, non?
C'est ce qu'ils vont essayer de faire parce qu'on a déjà une liste de préparer, c'est certain, parce qu'elle avait des problèmes de santé depuis longtemps. Et là, qu'est-ce qui va être vraiment important de vérifier? Ça va être certains sénateurs qui sont plus modérés, qui vont choisir. Il y en a déjà qui ont affirmé qu'ils ne souhaitaient pas avoir une nouvelle nomination avant l'élection. Lisa Murkowski de l'Alaska, Susan Collins du Maine l'ont déjà déclaré. Il faut dire que Lindsey Graham avait déclaré ça aussi en 2018. Est-ce qu'il va changer d'idée maintenant que son siège est lui-même menacé? Ça va être intéressant à voir parce que, oui, on a une majorité au Sénat, mais s'il y a des sénateurs républicains qui décident de dire, écoutez, on va attendre le vote des électeurs, on va attendre d'avoir un nouveau Sénat qui va être assermenté, on va voter après, alors eux pourraient décider de voter du côté démocrate, en quelque sorte. Ça va vraiment être un calcul politique qui va être à voir. Là, l'élection qui vient de prendre, je vous le dis, là, une tournure tout à fait différente que ce à quoi on s'attendait.
Ah oui, quelle femme remarquable, quel parcours remarquable. Et cependant, on doit le dire, cette femme qui avait survécu à 2 cancers importants, elle faisait de la chimiothérapie, elle siégeait quand même à la Cour suprême. Elle allait entre ses traitements et la Cour suprême, n'a jamais vraiment eu une période de convalescence.
Non,
c'est ça qui est incroyable. Elle était indestructible.
Exactement. Elle a toujours dit, et Thérèse l'a bien dit aussi, ce qu'elle a dit à sa petite fille, elle voulait rester en poste jusqu'au prochain président des États-Unis. C'était son souhait le plus terrible. Elle voulait vraiment tenir jusqu'à ce moment-là. Malheureusement, 45 jours avant l'élection, elle décède. Donc, c'est très triste. Et surtout pour, je vous dirais, le mouvement progressiste aux États-Unis, si elle est remplacée par un juge beaucoup plus conservateur, il y a plusieurs décisions qui pourraient être renversées voter et c'est ce que craignent actuellement les démocrates. Peut-être d'ailleurs ça va les motiver à voter encore en plus grand nombre, là, je vous dirais, à la prochaine élection.
Mais une nomination à ce moment-ci, là, mais là, ça pourrait être dangereux. Ça pourrait,
mais il, c'est parce que là, ça va être interprété comme une partisanerie extrême. Ah, alors que les Américains ont commencé à voter par anticipation, vous avez vu ça, il y avait des belles files d'attente, donc je ne sais pas si c'est une indication de ce que sera le scrutin du 3 novembre. Beau portrait, merci beaucoup. C'est complet, Valérie.
Avec grand plaisir.
Beau travail.
Bonne journée, merci beaucoup.
Voilà. On fait une pause.